Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, toujours enregistré à distance. Aujourd'hui, on reçoit Annabelle, mais peut-être la connaissez-vous sous le nom AIM sur YouTube ou sur Instagram. Lorsqu'elle se présente sur Insta, elle dit beaucoup de choses. Entre autres, qu'elle est drôle, et je vous garantis que c'est vrai, mais aussi qu'elle est afro-féministe et écolo. Des luttes intersectionnelles, des luttes décoloniales, des luttes qui s'élèvent contre un même système. Et des voix pour les porter qu'on entend trop peu dans le paysage médiatique français. C'est d'ailleurs ce qu'elle a entrepris de dénoncer publiquement il y a peu, l'oubli des personnes racisées dans le mouvement écolo français. Et donc on va revenir en détail sur ce que tout ça signifie avec elle. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Bonjour Clémence.
Bonjour.
Annabelle, le titre de cette émission c'est Activiste. D'abord, est-ce que toi tu te reconnais dans ce terme-là ?
Alors, très bonne question. Je ne sais pas. En fait, j'y ai réfléchi justement parce qu'il y avait l'émission. Mais jusqu'à maintenant, je crois que je ne mettais même pas de mots sur ce que j'étais. Je disais ni militante, ni activiste, ni quoi que ce soit. Je me suis considérée féministe puis afro-féministe, mais je ne mettais pas d'adjectif derrière. Donc du coup, c'est vrai que... Après réflexion, je me dis, bah oui, ça serait difficile de dire le contraire. Mais est-ce que moi, je me suis autoproclamée un jour, ah oui, moi je suis activiste ? Non, ça n'est jamais arrivé, j'avoue.
Tu as une chaîne YouTube qui est presque à 100 000 abonnés, enfin plus de 80 000 abonnés, donc grosse chaîne YouTube, grosse communauté. De quoi ça parle ? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube ?
Alors, j'appelle ça du lifestyle conscient, mais plus le temps passe et plus je me dis est-ce que vraiment ça résume tout ce que je fais ? Je pense. Donc en gros, bah, je parle de ma vie, je parle de ce que je fais, je parle de comment je consomme, etc. Mais avec un point de vue conscientisé, c'est-à-dire que je questionne ce que je choisis, ce que je mange, ce que je fais, ce que j'achète, ce que je dis, etc. Tout est réfléchi avec l'idée d'avoir l'impact le plus positif et surtout le moins négatif sur le reste de la société finalement, tout simplement.
Et est-ce qu'en lançant ta chaîne YouTube, c'était l'intention que tu avais ? Est-ce que tu l'as fait en te disant « je vais me servir de cette plateforme pour défendre mes idées »
Non, alors oui et non. Au tout début, c'était vraiment parce que je faisais une année sabbatique et que je me disais « bon, t'aimes bien faire des vidéos, t'aimes bien faire du montage, reprends, ça va te divertir ». Mais à la base, pas spécialement. En fait, je le faisais. En fait, ça s'est pas fait comme ça. En fait, d'abord, j'avais des idées, j'avais des convictions, mais je voulais me divertir. Sauf que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était justement. En fait, d'abord, j'ai agi et ensuite, j'ai mis un mot dessus. Un jour, je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu fais depuis le début, c'est politique, c'est du militantisme, c'est de la dénonciation, c'est de l'activisme, en quelque sorte. Et c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, chacune de tes vidéos, est-ce que tu as conscience que chacune de tes vidéos, c'est du féminisme ou de l'antiracisme ou de l'écologie ou du machin ? Et c'est à la fin, je me suis dit, mais en fait, ouais, grave, je ne fais rien de pas politique dans tout ce que je fais, de vraiment engager, en fait. Voilà, toutes mes vidéos sont engagées à leur degré. Et un jour, j'ai réalisé, je dis, bah, en fait, ouais, bah, en fait, t'es pas juste une chaîne YouTube, en fait, t'as rien compris. Et c'est là que j'ai. Non, mais c'est là que je me suis dit, bah, en fait, non, c'est. Depuis le début, tu fais une chaîne engagée. Et voilà. Je sais plus c'était quoi la question.
Si, c'était okay. effectivement ça la question. C'est qu'est-ce qui, au départ, t'a motivé à commencer ? Est-ce que tu t'étais dit au départ que ça allait être pour porter des engagements ? Et la question que je me pose ensuite, c'est est-ce que tu as remarqué une évolution entre les sujets, la manière dont tu abordais ces sujets au départ et ben, par exemple pour tes vidéos les plus récentes. Moi, je sais que j'avais vu assez récemment une vidéo que tu as fait avec Manu ancienne rédactrice beauté de Mademoiselle, sur le sujet des cheveux, de ne pas toucher les cheveux des personnes racisées parce que oh, c'est marrant, ils sont tellement différents, alors que bon, il y a une personne en dessous.
Grave.
Est-ce que toi, t'as remarqué une évolution dans la manière dont tu traites les sujets, dans le choix des sujets, depuis que t'as lancé ta chaîne YouTube ?
Ouais, parce qu'au début, je le faisais très inconsciemment. Et qu'après, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de faire des trucs, vraiment, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, je vais pas me priver, si j'ai envie de parler de ça, je parle de ça, même si c'est pas du tout ce dont je parlais au début de ma chaîne, je m'en fiche, j'ai envie de parler de ça. Donc, ouais, je le fais, en fait, je le fais consciemment maintenant, je le fais plus inconsciemment. Mais je pense que c'est sur mes réseaux sociaux que ça a changé, parce qu'au départ, donc, c'était très aseptisé au final, hein, enfin, oui et non. Certains diront que pas du tout, mais moi je trouvais ça encore un peu trop aseptisé. Mais je pense que là où ça a vraiment changé, c'est sur Instagram. Sur YouTube, ça reste très réfléchi, très écrit, en fait, très pensé, très. Voilà, très anticipé, on va dire. Mais c'est sur Instagram que je suis la plus engagée. C'est là que ça a le plus changé, en fait. Sur YouTube, je pense que l'évolution est visible, surtout parce que entre le jour 1 et le dernier jour, bah, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses, j'ai mis le doigt sur des nouveaux trucs. Mais sur Instagram, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est sûr.
Mais c'était quoi le déclic qui t'a fait passer de le fait d'aborder ces sujets de façon un peu inconsciente à le fait de les aborder avec conviction. Est-ce que tu avais, par exemple, peur de déranger avant, au départ, quand ça a toujours été des sujets qui te touchaient, qui te concernent, sauf que j'ai l'impression, à travers ce que tu racontes, qu'au début, c'était un peu presque... Tu les fais un peu passer comme ça, en soum-soum.
Oui,
hop,
c'est ça.
De temps en temps, un petit peu de politique dans des conseils lifestyle.
C'est
et maintenant, c'est plus l'aspect politique qui prend le dessus. Du coup, est-ce que tu avais peur de déranger? Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles? Est-ce que tu arrives à retracer un petit peu ton cheminement?
Je crois qu'en fait, ça s'est fait par saturation. C'est-à-dire qu'avant, je me modélais en me disant « Oui, en gros, il faut prendre cet angle doux parce que sinon, tu vas passer pour une personne agressive, pour une personne qui a la rage, qui a le seum. » Tu sais, genre, je me disais « Il faut aller dans le sens des gens pour qu'ils comprennent et qu'ils en viennent à ton point et pour pas trop les déranger, pour qu'ils comprennent. » Et en fait, un jour, j'ai dit « Mais j'en ai archi marre. » J'en ai super marre de devoir expliquer les choses avec parcimonie, écoutez-moi s'il vous plaît, et tout ça. Et un jour, je dis, vas-y, franchement, j'en ai marre. Ça fait 4 ans que j'essaye de faire les choses, nanana, expliquer bien les choses. Et à un moment, je me suis dit, bon, voilà, tant pis, si vous voulez pas comprendre, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'aurais exprimé les choses comme je les pense, comme je les vis, comme je les dis, etc. Et puis, que les gens s'en aillent, en fait, s'ils sont pas contents. Vraiment. Je sais pas vraiment quel était le déclic, si un jour je me suis dit, allez, c'est bon, j'en ai marre, mais je pense que ça s'est fait, bah, petit à petit, au fur et à mesure. Le vase s'est rempli, puis un jour il a débordé, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est vrai que sur Instagram, c'est encore plus marqué.
Ouais.
Notamment dans tes stories, etc., cet engagement. Et d'ailleurs, je le mentionnais dans l'intro, aujourd'hui, quand tu te présentes, par exemple, après une grosse vague de nouveaux abonnés, etc., tu te présentes en disant direct « La dame est afro-féministe, la dame est écolo ». Et globalement, si t'es pas en accord avec ces trucs-là, ou si t'es là pour faire chier, ou faire des commentaires sur mon corps, ou sur le fait que je m'épile pas, ou quoi que ce soit, tu dégages.
Exactement.
J'ai pas la patience.
Exactement. Je perds plus de temps. C'est un gain de temps
énorme.
Et
du coup, tu mets direct les gens devant le fait accompli. Mmh. C'est « Je suis une personne afro-féministe ». Pour les personnes qui découvriraient ce terme, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça signifie ?
Bien sûr. Alors, afro-féministe, c'est être féministe et afro-descendante, en l'occurrence, et en fait, prendre en considération les problématiques qui sont spécifiques aux femmes racisées et aux femmes afro-descendantes. Puisque au sein du féminisme, on parle des femmes, sauf qu'on oublie bien souvent que pour une femme racisée, bah, on vit une double oppression, et que donc, une fois que le problème du féminisme est réglé, les femmes racisées, elles sont toujours pas sorties d'affaire.
Toi, tu disais tout à l'heure que tu t'es pas toujours définie comme ça.
Ouais.
C'est quoi le déclic qui t'a fait changer ?
En fait, déjà, j'ai eu du mal à me définir féministe. Donc, ça a été long pour en arriver jusque-là. Ensuite, afroféministe, c'est arrivé, je pense, il y a 2 ans, mais j'osais pas le dire. C'est-à-dire, je connaissais depuis longtemps, mais j'avais du mal à me... Encore, c'est toujours la même chose. Hein. Je me disais, si j'arrive en disant que je suis afroféministe, les gens vont pas m'écouter. De la même façon que je me disais, si je me dis féministe, les gens vont pas m'écouter. Sauf qu'un jour, j'ai compris que si on m'écoutait pas, c'est pas parce que je disais féministe, c'est pas parce que je disais afro-féministe, c'est parce que j'étais une femme racisée avant, en fait. C'est écrit sur... Enfin, non, mais j'ai pas besoin d'être afro-féministe pour qu'on ne m'écoute pas. Tu sais, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu t'emmerdes à changer les mots, à cacher des étiquettes, alors qu'en fait, c'est déjà écrit sur ton front? Mais je sais, il n'y a pas eu de... Il n'y a vraiment pas eu de... Il n'y a pas eu de jour... Encore une fois, j'ai pas d'idée du jour. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je crois que c'est sorti de ma bouche avant même que je me le dise dans ma tête, en fait. Enfin, que je me dise que j'allais le dire ou que j'allais le revendiquer. Je me rappelle pas du jour où c'est arrivé. Franchement, là, aucune idée.
Et concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'avoir un autre terme que celui de féministe ?
Bah justement, parce que au sein du féminisme, j'estime qu'on n'est pas suffisamment représenté et qu'on a des luttes qu'on doit mener aussi de notre côté, qui sont spécifiques. Et donc, il faut un mot pour lutter. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir un mot. Et en plus de ça aussi, parce que moi, je connais beaucoup de femmes racisées, par exemple, qui ont du mal avec l'étiquette féministe, parce que quand elles voient des mouvements féministes, ben elles sont pas dedans, elles sont pas représentées, personne n'aborde leur thématique, personne n'aborde leur problématique. Et donc, si tu leur dis pas, mais en fait, il y a un féminisme aussi pour toi, avec tes problématiques, ben, pourquoi s'y intéresser, en fait, tu vois ? Je pense que moi, je sais quand est-ce que c'est arrivé, l'afroféminisme, en fait, je viens de me rappeler. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Téton Marron, sur Instagram, et donc qui est un compte afroféministe, et j'avais déjà entendu le mot. Mais en fait, voir un compte dédié, en fait, je me suis rendu compte en regardant chacun des posts que j'avais un tas de problématiques dont j'avais jamais entendu parler dans le féminisme. Et je me suis dit, putain, mais oui, c'est des vraies problématiques. Mais effectivement, je vis ça, moi aussi, je vis ça, moi aussi, je vis ça, moi aussi, je vis ça. Ah ouais, non, il me faut un terme. Il me faut un terme, il me faut une lutte spécifique. C'est nécessaire parce qu'en fait, c'est des trucs dont j'ai jamais entendu parler dans le féminisme, en fait. Voilà.
Et c'est quoi justement ces choses dont t'entends pas parler dans le féminisme et qui te concernent toi de prime abord, qui pourraient ne pas concerner des femmes blanches, qui ne concernent pas des femmes blanches?
Ouais, bah justement, il y a pas longtemps, j'ai fait tout un podcast sur la place des femmes noires dans le rap, qui était en réalité un podcast afroféministe pur et dur, mais on a pris cet angle-là parce qu'on le trouve intéressant, parce qu'on est des grosses consommatrices de rap et qu'on s'est rendu compte que les femmes noires n'existaient quasiment pas dans le milieu du rap, alors même que le rap est un mouvement porté par des afrodescendants depuis le début. Et on s'est dit, mais en fait, comment se fait-il que les personnes racisées sont surreprésentées dans le rap et pas les femmes? Donc du coup, en fait, on a pris cet angle-là pour parler de misogynie noire. Donc c'est le mot justement qui définit en fait le sexisme que vivent les femmes noires et les femmes racisées. Et en fait, c'est une double oppression. Bah, je vais prendre l'exemple du fétichisme. De la fétichisation, je sais pas, il y a plein de mots pour dire ça là. Parce qu'en gros, quand une femme blanche, par exemple, va être hypersexualisée, ça va être pris par le biais de son genre. Quand une femme noire ou racisée va être hypersexualisée, ça va être pris par le biais de son genre et de ses origines, de sa race, de son ethnie, de en tout cas ce à quoi elle est identifiée comme personne. Donc une femme asiatique ne va pas être hypersexualisée de la même façon qu'une femme blanche. On va lui rajouter des clichés racistes en plus des clichés sexistes. Et donc c'est une double oppression permanente parce qu'en fait une fois que on est entre femmes, on va se prendre des réflexions racistes par des femmes blanches, par exemple. Si on est au sein de notre communauté, donc avec des personnes racisées comme nous, on va se prendre des réflexions sexistes. Donc en fait, il n'y a aucune sphère dans laquelle on se sent safe. Si on va chez les féministes, on se sent oppressé. Si on va chez la lutte antiraciste, on se sent oppressé. D'où, je vais me répéter, mais d'où l'importance, du coup, d'un mouvement spécifique.
J'ai une question subsidiaire par rapport à ça. J'ai un esprit scientifique, il y a un problème mathématique que je ne saisis pas. Ouais. Tu es une femme racisée.
Ouais.
Donc ça veut dire que si tu vas chez les féministes, dans le féminisme, on s'occupe de toi. Dans l'antiracisme, on s'occupe de toi. Comment est-ce que la résultante de cette équation, c'est t'es oubliée dans les deux camps et pas t'es couverte par les deux camps? Ça me dépasse.
Mais écoute, ça me dépasse tout à fait également. Ça me dépasse tout à fait également. Bah, parce qu'en fait, si on fait une hiérarchisation des privilèges, en fait, on ne réunit pas deux luttes pour nous faire monter. On réunit deux oppressions qui nous font descendre. Parce qu'en gros, quand on va prendre une personne racisée pour parler au sein de l'écologie, automatiquement, on se tourne vers un homme. Parce que dans la hiérarchisation des privilèges, nous, on nous voit pas. Et en plus de ça, on est ralenti deux fois plus. Parce que, je vais te dire n'importe quoi, mais si demain, moi, je veux m'exposer sur les réseaux sociaux, je vais me dire, ah ouais, mais attends... Enfin non, même pas, je vais te dire pire. Et ça, des femmes à qui c'est arrivé et qui ont carrément voulu arrêter les réseaux sociaux à cause de ça, il y a des vrais cas. Si moi, je me lance sur YouTube, je vais me dire, Alors attends, parce qu'en plus, moi, il y a les histoires de qu'en plus de ça, je viens d'un milieu hyper modeste. Donc alors, si tu veux me rajouter des merdes, c'est parti. Donc je donne un exemple concret, parce que les réseaux sociaux, c'est ce que je fais. Si moi, je me dis, je vais lancer un compte Instagram. Je vais me dire, bon déjà, il me faut un téléphone, correct, ce que j'ai toujours pas, et donc je vais galérer pour me procurer un téléphone correct. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le courage de me lancer, de me dire je vais faire un compte Instagram et que je veux m'exposer sur les réseaux sociaux, je vais avoir donc, par exemple, des hommes racisés qui vont me dire des trucs sexistes en me disant « oui, mais t'es une femme, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça ». Je vais avoir des hommes blancs qui vont me dire « attends, mais c'est une femme racisée, donc je vais me prendre des propos sexistes et des propos racistes ». Je vais avoir des femmes blanches qui vont me proférer des propos racistes. Je vais avoir des… j'en suis où ? Des femmes blanches. Donc voilà, en gros, j'ai des bâtons dans les roues. Du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, le sexisme n'est pas déconstruit chez les personnes racisées, donc chez les hommes racisés. Le racisme n'est pas déconstruit chez les personnes blanches, qu'elles soient des hommes ou des femmes. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, peu importe le biais, à la fin, nous, on est en bas de la hiérarchisation des privilèges. Je sais pas si c'est clair.
C'est clair, c'est dramatique, okay. Mais c'est clair.
Oui, c'est, c'est dramatique.
Je voudrais qu'on revienne un peu aux sources pour remonter le fil de ta construction militante.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens de ta première indignation ? Ta première indignation, c'est-à-dire la première fois que tu t'es dit et que tu as ressenti « c'est pas juste ».
Alors le problème, c'est que moi, je suis une personne qui ressent beaucoup ce sentiment depuis que je suis vraiment petite. Et donc, franchement, il doit y avoir genre 1 milliard d'exemples. Il n'y a pas un jour de ma vie déjà où je ne suis pas en train de râler pour un truc. Mais je pense que je vais prendre l'exemple dont j'ai déjà parlé. Quand j'étais en maternelle, si on parle de discrimination capillaire, justement, quand j'étais en maternelle, j'avais une prof donc, qui était une femme blanche. Donc on y revient à ce truc de « où est mon camp, finalement ?» à un moment, on faisait des activités manuelles. Donc je ne sais plus vraiment ce qu'on faisait. C'était du collage, du dessin, du coloriage, je ne sais plus. Et je suis partie chercher des crayons de couleur ou un truc dans le genre. « Oui, je peux avoir des crayons de couleur ?» Et la prof qui me dit « Non, mais toi, tu feras du dessin quand tu seras bien coiffée. » Alors, super agréable, merci madame. En plus de ça, il faut savoir que à cette histoire-là, donc j'ai les cheveux bouclés, hein, mais en plus de ça, j'avais donc 4 ans. Et alors, ça va être dur de le dire sans émotion, mais quand j'avais 4 ans, mes parents, ils se sont séparés. Et donc, je me retrouvais une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. Donc, ma mère qui sait me coiffer, et mon père, donc, qui est un père, donc, tu vois, si on veut bien rajouter les clichés sexistes par-dessus, etc. Donc, mon père qui savait pas très bien me coiffer, et en plus qui est blanc, donc, alors, pour coiffer mes cheveux, c'est encore plus compliqué. Et donc, on était sur la cristallisation du divorce de mes parents à l'école. Cristallisé par mes cheveux, en fait. C'est-à-dire que mes cheveux disaient « Mes parents viennent de se séparer, et mon papa, il n'arrive pas trop à me coiffer, quoi. Donc, j'ai un peu du mal. » Et donc, ma prof qui me dit « T'es mal coiffée, tu feras pas du dessin. » Et ça la faisait rire. Et donc, je me retrouve face à elle, me dire « Bon, qu'est-ce que je suis censée dire ?» Et je ne l'ai pas dit à mes parents, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'en fait, c'est la prof. Donc, j'étais mal coiffée. Enfin, c'était pas genre « Oh, elle est méchante. » C'était genre « Ah non, je suis vraiment mal coiffée. » Du coup, je ne mérite pas comme les autres enfants. Et le sentiment d'injustice, il est cadeau, quoi. Hein. Donc voilà, je pense que c'est la première fois que je me suis dit « c'est pas juste, en fait ». Et je me disais pas « c'est pas juste, elle est méchante ». Je me disais « c'est pas juste, pourquoi moi j'ai ces cheveux ?» C'est pas juste, j'ai été punie, quoi. Parce que je suis mal coiffée, parce que j'ai les mauvais cheveux, tu vois.
Est-ce que tu te souviens, du coup, de la première fois que tu as ressenti ce sentiment d'injustice,
ouais,
mais que cette fois-ci, tu as été capable de répondre, ou en tout cas, à minima, que tu as été capable de te dire non, en fait, c'est pas moi, c'est pas mes cheveux, c'est pas que je suis mal coiffée, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est ce que je viens de recevoir.
Ouais, 12 ans plus tard, à peu près. quand j'avais. Pour les cheveux, en tout cas, ça a été quand j'ai eu 16 ans. Parce que d'abord, donc de mes 4 ans jusqu'à mes 16 ans, il n'y a pas eu de remise en question de mes cheveux peuvent être beaux. Hein. C'était pas négociable. C'était soit on trouve une solution pour les éradiquer, pour faire quelque chose, soit c'est pas des cheveux. C'est une malédiction. Donc ouais, c'était quand j'ai eu 16 ans. En fait, c'est le jour où, justement, les réseaux sociaux ont changé d'angle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est passé de « tes cheveux, c'est des cheveux de clown » à « tes cheveux, c'est des cheveux de filles qu'on considère belles et validées par les réseaux sociaux ». Et en fait, le sentiment que j'ai eu, ça a été d'abord « ah cool, c'est bon, je peux assumer mes cheveux » parce que socialement, ils commencent un petit peu à être acceptés. Ça a été ensuite... En tout cas, après le côté c'est socialement accepté, je peux les aimer, ça a été, mais en fait, pourquoi j'attends que les gens, ils viennent valider chacun de mes traits, chacun de mes actes, pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour enfin me dire, mais en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau. Je ne vais pas attendre que les magazines, le cinéma, les réseaux sociaux viennent me dire « Allez, tu peux rentrer maintenant ». Là, je me suis dit « Non, non, j'ai attendu mes 16 ans pour me dire « Mes cheveux, c'est OK » parce que tout le monde m'a dit « C'est bon, c'est OK ». C'est fini. J'attends plus que personne me dise « C'est OK, c'est pas OK ». C'est moi qui décide. Et donc, je pense que c'est là que c'est arrivé. Et les réseaux sociaux, pour le coup, m'ont beaucoup aidée. Et le fait de m'exprimer aussi, de mettre des mots dessus, de voir qu'il y avait plein de personnes qui ressentaient la même chose que moi, je me suis dit « Bon, là, c'est bon, on peut plus attendre, en fait. Ça suffit, genre, stop. »
Aujourd'hui, justement, tu défends beaucoup, du coup, l'intersection entre donc, le féminisme, l'antiracisme dont tu viens de parler, et aussi l'idée que la crise écolo est liée au colonialisme, au racisme, et que les femmes racisées en sont les premières victimes. Déjà, est-ce que tu peux détailler cette idée-là, l'idée que la crise écolo, elle est liée au colonialisme et au racisme ?
Donc oui, la crise écologique, elle est intimement liée au colonialisme, dans la mesure où on est sur un rapport de domination évident. L'humain qui exploite la nature, mais aussi l'humain qui exploite les autres humains. Le système actuel, il découle d'un système colonial et esclavagiste, celui qu'on a connu et celui qu'on connaît toujours aujourd'hui, sauf qu'on déplace plus les gens, on déplace les marchandises. Mais on exploite toujours la même population et toujours au profit des Occidentaux. Les plus touchés par les conséquences du capitalisme et de l'écocide, c'est les personnes racisées. Et les moins touchés, et surtout ceux qui en profitent le plus et qui en bénéficient, ce sont des personnes blanches. Et dans le cas des béquets, par exemple en Martinique, on parle carrément des descendants directs des colons. C'est-à-dire que leurs ancêtres directs, ce sont ceux qui ont colonisé et esclavisé. Et qui sont toujours aujourd'hui à la tête des entreprises et qui détiennent la majorité des terres, des biens et le tout en fait. Donc c'est logique. Logiquement, les femmes racisées, ce sont du coup celles qui souffrent le plus de toutes les crises, en fait. Là, on parle de crise écologique, mais en fait, c'est aussi les crises sociales, les crises sanitaires, les crises économiques, parce qu'en fait, si on prend une pyramide des hiérarchies des privilèges, bah, les femmes racisées sont en bas de la hiérarchie parce qu'elles cumulent à la fois le sexisme et le racisme. Donc, elles sont aussi les plus touchées par toutes les formes de discrimination. Et donc, en cas de crise, elles seront aussi celles qui perdront le plus de droits, qui mettront le plus leur vie en danger, et qui seront les plus discriminés, en fait. Et du coup, pour faire le lien entre le racisme, l'écologie et mon vécu, en vrai, il y a plein d'explications, et justement, c'est pour ça qu'on fait un reportage, c'est parce que point par point, en fait, il y a tellement de choses à expliquer. Mais moi, par exemple, je suis une femme racisée, et j'ai grandi en banlieue, et j'ai grandi en cité, comme par hasard. Mais en fait, c'est pas un hasard. Même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, etc., on sait que les populations racisées sont plus présentes en banlieue et en cité. Et en l'occurrence, moi j'ai grandi collée à l'autoroute toute mon enfance, même si c'est sûrement un des exemples les moins graves entre guillemets. J'ouvrais mes fenêtres, c'était l'autoroute, j'entendais l'autoroute, le parc dans lequel je jouais tous les jours, c'était à côté de l'autoroute. Donc ouais, quand on parle de pollution de l'air, de problématiques liées à la pollution routière, etc., bah en fait oui, je trouvais ça intéressant de voir une meuf comme moi qui vient parler de son propre ressenti et de ce qu'elle vit en fait.
T'as parlé d'un reportage, moi j'ai besoin d'en savoir plus.
Oui, donc en fait, avec Canel et Jérémy, on a lancé un projet de reportage qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ». On a déjà fait une cagnotte, etc., qui est déjà bouclée. Maintenant, on attend juste de pouvoir partir. Et justement, le reportage, il traite de l'invisibilisation des problèmes spécifiques liés aux personnes racisées. Jérémy et moi, on criait pas mal sur les réseaux sociaux, justement, vis-à-vis de ces questions-là, du racisme environnemental, de l'absence de personnes racisées dans les milieux écolos, etc. Et il y avait Canel qui, elle, est une activiste qui vit en Martinique, qui milite justement pour l'indépendance, contre le chlordécone, contre les oppressions coloniales, etc. Elle est vraiment sur le terrain. Et du coup, tous les trois, on s'est associés en se disant que on pourrait faire un reportage pour justement parler de ces sujets qui, selon nous, et c'est selon tout le monde, je pense, une fois qu'on aura tous vu le reportage, bah, on estime que c'est pas un sujet qui est suffisamment abordé. Et le but, ce serait justement de prouver le lien entre racisme, écologie et colonisation. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui meurent à cause de la contamination au chlordécone, il y a des gens qui tombent encore malades, il y a des gens qui développent encore des cancers, il y a 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais qui sont contaminés au chlordécone et qui seront pollués pendant des siècles. Et pourtant, personne n'en parle, personne ne s'indigne en métropole, tout le monde s'en fout. Alors qu'il y a 1 milliard de mouvements écolos qui naissent tous les jours, mais pourtant, personne ne parle du plus gros scandale écologique et sanitaire de France, puisque apparemment, la Martinique, c'est la France. Donc, comment se fait-il que tous les milieux écolos français ne s'emparent pas de ce sujet, ne le mettent pas en avant et n'en parlent pas, en fait ? Et du coup, on s'est dit que c'était justement le moment d'en parler et de mettre le doigt sur cette problématique, puisque nous, on criait sur le racisme, on criait sur les histoires de colonisation, et le chlordécone, en fait, ça centralise, enfin, le chlordécone et tous les cocktails de pesticides et toute la colonisation, enfin bref, ça centralise, en fait, toutes les problématiques qu'on critique et dont on parle depuis le début, en fait. Et surtout, le plus important, c'est de relayer la parole des personnes, en fait, qui luttent au quotidien, qui militent au quotidien et dont on n'entend pas parler. Des gens dont on n'entend pas le nom, qu'on voit pas aux infos, etc. Alors que c'est des gens qui sont sur le terrain 24 sur 24, 7 jours sur 7.
Donc là, tu viens de mentionner le chlordécone qui sera au cœur de votre reportage. Je suis pas sûre que, comme tu l'as dit, on en parle quand même assez peu, même si on a commencé à en parler dernièrement. Donc, explique rapidement ce que c'est le problème avec le chlordécone.
Avant de parler du chlordécone, je précise que c'est Canel et Jérémy qui l'expliqueront le mieux. Mais en quelques mots, en gros, ce qu'on dénonce et ce que la population martiniquaise et guadeloupéenne dénonce, c'est l'épandage du chlordécone et aussi de tout un tas d'autres pesticides. C'est un vrai cocktail de pesticides qui a été répandu dans les cultures de bananes et pas que, en Martinique et en Guadeloupe. Et ce sont des pesticides qui ont été reconnus comme des perturbateurs endocriniens, des neurotoxiques. On sait qu'ils ont des effets néfastes sur la fertilité, qu'ils sont cancérogènes. Il a été interdit en France en 1990. Et c'est seulement 3 ans plus tard qu'il a été, en fait, interdit aux Antilles. Et ça, avec la complicité de l'État. C'est-à-dire que l'État était au courant et a donné un accord pour qu'on continue à épandre ces pesticides qu'on savait toxiques et dangereux en Martinique et en Guadeloupe. Et la raison pour laquelle on n'a pas mis en lumière ces problématiques, on a continué à les faire répandre ces choses-là, on sait c'est quoi la réponse. C'est des territoires qui ont été colonisés, qui sont monopolisés, qui sont exploités, et on n'a pas de scrupules en fait à les exploiter, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de voix, qu'on ne laisse pas parler, qui ont été réduits en esclavage, puis colonisés. Donc bien sûr qu'on ne les écoute pas. On sait qui gère les médias, on sait qui a la parole, on sait qui monopolise la parole, on sait qui a le monopole sur, que ce soit professionnel ou... professionnel ou... médiatique, voilà. On sait qui a le monopole médiatique et professionnel, tu vois, donc c'est juste tellement évident. Mais en même temps, la preuve que c'est pas évident, puisqu'on est obligé de le rappeler, quoi.
Quand tu dis « on sait qui c'est », ces gens sont les descendants des colons.
Oui, les descendants des colons. Ce qu'on appelle les béquets en Martinique, mais... suffit de voir... en fait, c'est un truc tout con, mais il suffit de voir qui gère le monde, qui sont les plus riches de ce monde, et de se dire, c'est logique, en fait. Si c'est des hommes blancs cis qui gèrent le monde, qui ont le monopole, qui ont tout l'argent, c'est logique que tout ce système bénéficie aux gens qui leur ressemblent, qui les suivent, et qui ont bénéficié des mêmes privilèges. Un colon qui a un enfant colon, il prend les bénéfices de l'argent que tout le colon a récupéré sur le dos des personnes colonisées pendant des générations. Et puis, de but en blanc, il aide ses confrères, et puis on s'en sort plus. Et nous, pendant ce temps-là, plus le temps passe, et plus on perd des privilèges, en fait. Voilà.
Et ça, finalement, je trouve que si c'est aussi difficile à expliquer aujourd'hui et à faire entendre aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on nous l'enseigne mal. On enseigne mal cette histoire.
On l'enseigne pas,
effectivement. Histoire, parce que une fois qu'on nous met devant les yeux qu'elle a été, c'est idiot, hein, mais j'ai regardé un documentaire justement sur toute l'histoire de l'esclavage depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Ouais.
Et j'ai appris un tas de trucs qui éclairent la problématique dont tu parles maintenant. Le documentaire s'appelle Les routes de l'esclavage, si vous voulez aller le regarder. Il est en 4 parties. C'est phénoménal le nombre de choses où tu te dis donc en fait c'est pour ça que c'est comme ça le monde aujourd'hui. Mais si on nous enseigne pas l'histoire, si on nous enseigne pas le passé à ce sujet là évidemment qu'on est aveugle, en fait.
Bien sûr, c'est logique. Et en plus, vraiment, à l'école, c'est catastrophique. On a un micro-chapitre et surtout, j'ai l'impression qu'on nous rabâche l'histoire des États-Unis, mais il y a personne qui nous parle de l'esclavage français. Alors que la France, ils se sont enrichis comme tous les autres pays sur l'esclavage. Il y a personne qui en parle. La Réunion, c'est horrible. Moi, je suis d'origine réunionnaise. Ce qui s'est passé à la Réunion, c'est horrible. C'était de l'esclavage. C'est toujours une colonie française. Et l'esclavage, quand on l'a aboli soi-disant, il a continué pendant des années. Et ça, c'est encore un truc, j'ai dû l'apprendre parce que j'ai dû faire des recherches toute seule, comme une grande. J'aurais pu passer ma vie en me disant, en n'ayant même pas conscience que si ma mère était noire, c'est parce que on a vendu ses ancêtres et qu'on les a posés là, à La Réunion, pour les exploiter. Et moi, un jour, j'ai dû me dire, mais en fait, oui, tu vois. Mais même moi, tu te rends compte? Donc je me rends bien compte qu'une personne blanche, le temps que ça lui monte au cerveau, on n'y est pas, quoi. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait des résumés, c'est pour ça qu'on fait des coups de gueule. C'est parce qu'en fait, si nous, on n'en parle pas, dans 10 ans, dans 20 ans, on est toujours au même niveau, quoi.
Et il y a un autre obstacle pour moi au fait d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Je vais prendre mon exemple, mais moi j'ai fait des études de sciences politiques, de droit. Ouais. On nous apprend que la France, la République française est une et indivisible, etc., etc. Donc même si j'ai conscience du passé colonial de la France, la réalité aujourd'hui, c'est l'unité du territoire. Donc moi je suis devenue végétalienne notamment parce que je ne voulais pas contribuer à l'économie qui dévaste l'Amazonie, parce que ouais. J'estime que mon plaisir gustatif n'est pas plus important que la vie des paysans sud-américains. Ouais. Mais en revanche, je me suis jamais un seul instant arrêtée sur les produits qui viendraient d'outre-mer français, parce que c'est la France. C'est la France, madame. On fait attention aux gens en France.
Eh ouais, et c'est vrai. Mais on nous rabâche beaucoup cette idée qu'en France, il n'y a pas de racisme, qu'en France, la colonisation, c'est fini, qu'il n'y a plus de système d'oppression raciste en France, que tout va bien et que le vivre ensemble et nanani et nanana. On occulte, en fait, c'est plus simple. On occulte et on s'auto-persuade. Mais pendant qu'on s'auto-persuade, les mécanismes d'oppression sont toujours présents, ça existe toujours. On est toujours là en train de crever la gueule ouverte. On a toujours des gens aux Antilles qui crèvent la gueule ouverte et dont personne ne met en lumière les problématiques, quoi. Donc ouais, c'est catastrophique.
On a évoqué le lien entre le colonialisme et l'environnement, mais tout à l'heure, on a aussi mentionné le fait que les femmes racisées étaient aussi celles qui subissent le plus les crises, parmi lesquelles la crise environnementale. Est-ce que tu peux détailler pourquoi ou donner un exemple?
Ben, si on revient, par exemple, sur l'histoire du chlordécone, parce que bon, on est sur le sujet, il y a des spécificités qui touchent particulièrement les femmes. Notamment, il y a Canel qui me disait, en gros, que il y avait un fort taux d'endométriose, que il y a des femmes qui faisaient des fausses couches, qui avaient des difficultés à mener une grossesse à terme. Il y avait des répercussions directes sur leurs hormones, sur leurs enfants. Quand en fait, on est contaminé au chlordécone. Et ben en fait, quand tu enfantes, ton enfant, il sera également contaminé par le biais du cordon ombilical ou par le biais du lait maternel. Donc, en plus des soucis de cancer, des soucis de santé globale, il faut ajouter des soucis hormonaux et gynécologiques. Et ce qu'il y a de plus grave également, et ce qu'il y a aussi de grave également dans le fait d'être une femme et d'être touchée par les pesticides, la crise écologique et toute forme de crise, c'est que c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre en tant que femme noire. C'est plus difficile de se faire entendre quand on subit les conséquences du patriarcat qui nous invisibilise, mais aussi du coup les conséquences du racisme qui nous invisibilise. On vit une double oppression permanente qui nous empêche de porter nos voix. Il y a plus de chances, au vu de l'histoire et du passé et du système d'oppression, pour qu'on soit précaire, invisibilisé, qu'on ait peu de voix, qu'on ait peu de médias qui puissent nous écouter. Et moi, il y a un truc que j'appelle le syndrome de Beyoncé, c'est que en gros, quand t'es une femme noire ou une femme racisée, pour qu'on t'écoute, pour qu'on te voie, pour que t'aies une place quelque part, il va falloir faire plus grand, il va falloir faire plus fort, il va falloir faire plus tout, en fait. Si tu veux une place, si tu veux qu'on t'écoute, en gros, t'as intérêt à soulever des montagnes, tout en ayant moins de moyens, en ayant moins de place et en ayant moins d'alliés. Donc du coup, quand t'as un problème spécifique, en plus de subir une double conséquence, en plus de subir une double pression, tu vas galérer deux fois plus, voire quatre fois plus que les autres pour qu'on écoute ce que tu as à dire. Alors même que tu es la personne qui a le plus de choses à dire puisque tu es la personne qui subit le plus d'oppression.
Je voudrais qu'on vienne un peu dans le détail des différentes causes pour lesquelles tu milites. Aujourd'hui, tu es une afroféministe, écologiste, décoloniale.
Ouais.
C'est un package. Il y a plein de couches à travers ça.
Ouais.
Est-ce que ces couches, tu les as construites progressivement ou est-ce que c'est arrivé d'un coup et c'est le moment où tu as compris que c'était ça le package, que tu t'étais senti bien dans tes engagements?
En fait, c'est comme pour ma chaîne YouTube. C'est pas qu'un jour je me suis dit je vais être ci, je vais être ça. C'est qu'en fait, je suis les mots sur lesquels. Je suis les étiquettes. Je les ai pas choisies. Je suis l'étiquette directement. Je dis afroféministe, mais en fait, c'est parce que je suis une femme racisée qui subit des oppressions racistes et sexistes. Donc, je suis afroféministe. En fait, c'est en réponse, c'est en contre-coup de ce que je suis. Tu vois, je choisis pas de militer, je choisis pas d'être afroféministe. C'est juste le mot qui définit ce que je suis et ce que je subis. Même quand je suis écolo, c'est parce que, oui, je suis une personne racisée, oui, je suis une femme racisée, mais je suis aussi une humaine dans ce monde qui va subir et qui subit déjà les conséquences de l'écocide. Et donc, je suis écolo, et parce que en réponse à ce que je subis ou à ce que je vais subir. Donc, il n'y a pas eu de prise de conscience successive. Ça a été je subis. Il y a ça qui est contre moi, il y a ça qui est contre moi. Il faut que je lutte. Mettons des mots sur finalement ce que je subis, mais en réponse à ce que je subis pour le contrer. Ouais, je dirais plus que c'est ça.
Et qu'est-ce que tu réponds alors aux gens qui te disent, typiquement sur le terrain de l'écologie, « Non, mais vous êtes en train de faire du communautarisme. L'écologie, c'est censé être une cause universelle.
» L'écologie, c'est censé être une cause universelle, sauf qu'elle est portée et elle est monopolisée par des personnes majoritairement blanches qui sont qu'entre eux. Moi, ça me fait super rigoler, moi, ça. C'est pour ça que moi, quand je l'ai dénoncé dans ma story, j'ai mis les photos à l'appui, parce que si je le disais seulement, on allait me contredire. Moi, j'ai même pas dit « Vous êtes qu'entre blancs au départ. » J'ai dit « Comptez. » Regardez, j'ai rien dit, regardez. Et osez me dire que c'est moi qui fais du communautarisme. Alors que ça fait des années que justement j'essaye de m'inclure dans ce milieu sans qu'on me calcule, sans qu'on me parle, sans qu'on m'invite, sans qu'on me voit, sans qu'on parle de mes problématiques. Ça fait depuis le début que justement j'essaye de m'intégrer dans votre milieu sans que personne me calcule, sans que je me voie sur les photos, sans que je vois des femmes comme moi sur les photos, alors même que moi, j'en suis des personnes comme ça et que je les vois lutter. Et je me disais, mais en fait, ils n'en ont rien à faire de ma vie. Ils n'en ont rien à faire des meufs comme moi. Ils s'en fichent. Ils sont dans leur petite bulle de privilégiés et ils veulent rester entre eux, tu vois. Donc, en fait, et surtout, le peu de fois où tu essayes de t'y intéresser, en fait, tu es exclu d'office. Donc, en fait, tu te dis un jour, si quand j'essaye d'aller chez eux, ils ne me calculent pas, ils font comme si j'existais pas, je vais parler à toutes les personnes qui, comme moi, sont exclues. Et on va se parler entre nous. Toi aussi, tu es exclu. Il faut qu'on se réunisse parce qu'en fait, plus on essaiera d'aller chez eux et plus on se fera rejeter. Donc en fait, on n'a plus qu'à se réunir entre nous. Et ça, c'est même pas fait avec de la préméditation. Canel, moi et Jérémy, par exemple.
Je te coupe, Annabelle, ouais. Juste pour qu'on explique, qu'on revienne sur ce que vous avez fait parce qu'en fait, on ne l'a pas expliqué encore.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Exact. Ouais, exactement. Il faut savoir que c'est 4 ans d'observation dans un premier temps, parce que moi ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans que je parle d'écologie et ça fait 4 ans que je suis complètement invisible, alors que comme on l'expliquait, je fais beaucoup de vidéos, je comptabilise beaucoup d'audience, etc. Et personne me calcule, je vois 1 milliard d'événements, de prises de parole, de tables rondes, de live, de machin, où je vois personne parler de mes problématiques, de nos problématiques, et en plus de ça où il y a que des personnes blanches. Et donc j'ai saturé. Et en fait, en gros, entre-temps, donc, j'ai rencontré Jérémy, puis j'ai rencontré Canel, puis on a voulu faire un reportage, on s'est dit, bon, il faut qu'on en parle. On saturait, on faisait chacun de notre côté un peu des coups de gueule de temps en temps sur le sujet, etc. Sans mettre de mots, sans balancer d'arrobas, sans mettre de noms, parce qu'on se disait justement, on va alerter petit à petit, les gens vont se reconnaître, et puis ça va changer, ça va évoluer, et puis en fait, non. Et un jour, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, en gros, le déclencheur, ça a été qu'On est prêt a fait pendant le confinement tout plein de capsules, vidéos, avec 18 personnes, précisément 18 personnes, sur le monde d'après. Sur, en gros, qu'est-ce qu'on va faire après le confinement? Le monde d'après, donc, nous tous, qu'allons-nous faire tous ensemble? Et ils ont invité Jérémy, qui n'avait pas demandé des quotas à ce moment-là, parce qu'en fait, il demande les quotas à chaque fois quand c'est des vidéos collectives. Donc là, il s'était dit, vas-y, je le fais, on galère, c'est le confinement, j'accepte, c'est parti. Et en gros, ils ont mis à la suite, dans leur story, toutes les personnes qui avaient participé. Donc 18 personnes. Je swipe. Et 18 personnes, je vois que Jérémy. Et j'envoie direct à Jérémy. Je dis, maman, je lui envoie, je lui dis, non, mais je vais péter les plombs. En fait, ça a été la goutte d'eau. J'ai dit, mais je vais péter les plombs. Et je lui dis, je suis désolée, mais là, moi, je peux plus et tout. Il me dit, putain, j'avais même pas vu, j'avais pas demandé les quotas et tout, machin et tout, on a merdé et tout ça. Et je lui dis, vas-y, moi, je parle pas, parce que si je parle, on va me dire que je me victimise, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'entendre les gens et tout. Et il m'a dit, si, vas-y, moi, je te soutiens, on le fait. J'ai dit, non, laisse tomber et tout, je veux pas. Et le lendemain, j'envoie à Canel, je dis, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais si, t'as raison, c'est le moment, il faut qu'on parle, on peut plus rester comme ça, on peut pas ne rien dire, c'est mort. T'as raison, on y va avec toi, c'est parti. Et de là, on s'est organisé, on s'est dit, moi, je veux dire ça, moi, je veux dire ça, moi, je veux dire ça. Et chacun de notre côté, on a préparé nos stories et on les a balancées le même jour. Et moi, j'ai dit, par contre, si je le fais, si on le fait, c'est pas pour pas les arrobase. Moi, j'arrobase parce que ça fait 4 ans que je fais des sous-jacents, que j'envoie des petits signaux mignons, bienveillants, ah là là là, avec mes stories, mes explications, tout ça. Là, c'est bon. Point sur la table, j'ai plus le temps. Et donc, on a balancé des photos, on a balancé les arrobases. Faut savoir qu'avant ça, on a envoyé un message à On est prêt pour leur dire qu'on allait en parler parce qu'on est fatigué, qu'il n'y a pas de femmes racisées, que vous faites comme si on n'était pas là. C'est inadmissible. On a eu un message... vide de sens, mais en tout cas, soi-disant, qui sous-entendait que oui, oui, ils comptaient le faire, mais à cause du coronavirus, on voulait le faire, hein, mais on n'a pas eu le temps parce que coronavirus... non, mais au bout d'un moment, ça fait combien de temps que votre mouvement, il existe? Et ça fait combien de temps que j'étais là avant... limite, j'étais là avant eux, sur les réseaux sociaux, à militer, tu vois. Et en fait, ce qui était le plus énervant, c'était de se dire que c'est pas tant l'inclusion des personnes racisées, c'est de se dire qu'en fait... eux ne soutiennent pas les mouvements antiracistes. Ils te parlent de société de demain... mais sans nous, quand ils font 10 sur 18 personnes, il y a un seul mec racisé, je ne suis pas dans le monde de demain, en fait. Moi, je suis pas dans On est prêt, on n'est pas prêt avec moi, on ne me calcule pas, et moi, dans leur monde, si c'est demain, si c'est On est prêt, et le JTR qui gère la société, qui dit à Macron ou au monde entier, voilà, maintenant, on va vous expliquer comment on va faire, dans cette société, je vais souffrir comme dans celle-ci. Alors, j'aurai de l'eau potable et un peu d'air, mais je serai toujours oppressée et mes problématiques seront toujours ignorées et je vivrai toujours du sexisme et je vivrai toujours du racisme. Donc je m'en fous de votre monde. Et donc c'était ça le message, en gros. C'était arrêter de nous vendre un monde merveilleux, bienveillant et une nouvelle société qui est la même qu'aujourd'hui. C'est la même société, juste avec de l'eau potable. Super, je ne veux pas de cette société. En gros, pour résumer, on l'a balancé sur les réseaux sociaux publiquement parce qu'on en avait marre. Voilà, tout simplement.
Et il y a un truc qui me marque dans ce que tu dis, c'est qu'au départ, tu voulais pas faire ça parce que tu avais peur de passer pour la meuf qui se victimise ou la meuf qui a trop la rage, etc. Ouais. Et tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça colle au stéréotype de la angry black woman.
Exactement, exactement, exactement. En fait, le problème, c'est que c'est des trucs qu'on entend depuis toujours, c'est-à-dire que dès qu'une femme noire ouvre la bouche, elle est en colère. Le truc, c'est que les femmes noires ont encore plus de revendications. C'est un stéréotype qui est horrible parce que à la fois on a des femmes noires qui ont 2 fois plus de revendications ou 4 fois plus ou 3 fois plus comme vous voulez, et de l'autre côté c'est aussi celles à qui on veut le plus fermer la bouche. En fait, moi ce que je comprends pas, c'est qu'on comprenne pas que les femmes racisées soient plus énervées que les autres, soient encore plus en colère. C'est logique que nous on soit encore plus en colère. Encore une fois, quand une féministe est en colère, nous, rajoute du sel dans l'histoire, tu vois, ça pique encore plus. Et effectivement, en fait, je l'ai intégré, ce stéréotype. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit, bon, attends, calme-toi, parle doucement, parce que sinon, personne ne va t'écouter. Mais on y revient, si on ne m'écoute pas, ce n'est pas parce que je suis en colère, ce n'est pas parce que je suis énervée, c'est d'abord parce que je suis une femme racisée et qu'on n'a pas envie de m'écouter. Parce qu'en gros, quand moi, je contre, par exemple, une personne du JTR, en fait, je suis l'opposé de cette personne. Je suis l'opposé de ces personnes, je suis l'opposé de ces privilèges. Partout où lui, il en a, moi, tu m'enlèves tout, en gros. Tu vois, c'est ça le truc.
Je crois qu'il y a une bonne façon de sortir des considérations de personnes dans ce genre de situation, c'est de revenir à la dimension politique des combats qu'on porte.
Grave.
Et que même si ça ne fait pas plaisir de s'entendre dire qu'on a un angle mort sur une lutte, quand on est impliqué dans la lutte pour l'égalité, c'est pourtant salutaire que quelqu'un vous le fasse remarquer pour pouvoir justement sortir de son expérience individuelle pour aller vers l'expérience collective,
exactement,
la dimension politique. Et justement, à propos de politique... j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ce mot évoque, le mot politique? C'est quoi la définition que t'en as?
Attends, il faut que je me concentre. C'est quoi ma définition du mot politique? Mon Dieu.
Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait?
Moi, le premier truc qui vient, ça serait prise de position. Je pense. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais... en fait, justement, on en parlait... dans mon podcast, je vais en reparler, c'est chiant. Quand on disait à Lisa Monet, oui, est-ce que tes textes sont politiques? Ce qu'on lui demandait en réalité, c'est est-ce que tes textes sont engagés ? Est-ce que tu as conscience que quand toi tu t'exprimes de la façon dont tu t'exprimes, c'est un acte d'engagement, c'est une prise de position, c'est une prise de risque, c'est une parole que tu portes, c'est ton image que tu portes, c'est un impact sur le monde et sur la société. Quand toi tu parles, c'est pas juste toi tu parles, c'est tu propages des idées en réalité. Tu prends des prises de position, tu ouvres des voies, tu ouvres des portes. En gros, c'est ça. Est-ce que tu as conscience que quand tu parles, ça a un impact sur le reste de la société et c'est des prises de position ? En gros, quand on a posé la question, pour moi, c'était ça.
Et toi, justement, quand tu prends la parole, est-ce que tu as conscience que c'est politique ?
Ouais, et j'en avais pas forcément conscience avant. C'est politique. En fait, quand moi, je parle, ça n'a pas le même impact que quand une personne plus privilégiée parle. Tu vois ? C'est quand moi, ne serait-ce que quand moi, on me voit moi dans une sphère écolo, ma place, elle n'est pas juste une place neutre, c'est jamais neutre. Tu peux me mettre n'importe où, ma place ne sera jamais neutre. Le délire de oui, je vois pas les couleurs, machin et tout, on est des citoyens du monde, machin et tout, moi je voudrais bien dire ça, mais c'est juste pas possible. Ma position n'est pas neutre, je suis en perpétuelle opposition en fait. C'est peu importe où je me mets, je suis tout le temps en perpétuelle opposition. Tu vois ? Donc ouais.
Je voudrais bien qu'on s'arrête un instant sur le délire de ne pas voir les couleurs.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Et ben en fait, le problème, c'est que comme j'expliquais dans mes stories, ne pas voir les couleurs, c'est un privilège.
Ne pas voir les couleurs de peau des gens.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un privilège dans la mesure où en fait, moi j'aimerais bien, j'adorerais ça, hein. Vraiment, c'est mon dream come true. sauf qu'on me le rappelle tout le temps et que en fait, quand je vois une photo du JTR, je suis désolée, j'essaye de ne pas voir les couleurs. Hein. Mais en fait, justement, je ne les vois pas, dans le sens où il n'y a personne qui est... Il n'y a pas de représentation. Donc en moi, à ma position, je vois cette photo, je ne peux pas ne pas voir que je ne suis pas ou qu'il n'y a pas des personnes comme moi qui y sont représentées. Et moi, je ne vois pas de couleur, je vois mon exclusion. Et j'aimerais bien ne pas la voir, mais pour pas la voir, il faudrait qu'il y ait une répartition cohérente des personnes présentes, tu vois. Moi, j'adorerais pas voir, hein, vraiment, mon rêve.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta démarche où tu as hésité à prendre la parole, hésité à t'engager parce que tu avais peur de t'en prendre plein la gueule ou peur de l'humiliation, ou est-ce que tu as eu des doutes concernant ta légitimité à prendre la parole ?
Alors, attends, sur quel, du coup, sur tout où tu veux un angle précis Attends, je réfléchis à une situation. Globalement, je suis une personne qui ne se tait pas parce que j'ai évolué dans un environnement familial où on m'a laissé parler, où on m'a laissé m'exprimer. Mais oui, il y a plein de moments, typiquement, pour la fameuse story qu'on a faite là ces derniers jours, c'est un truc que je rêve de faire, que je supporte plus, que j'ai envie de faire depuis le début. La seule raison pour laquelle j'ai réussi à le faire maintenant, c'est parce que j'ai été soutenue par des personnes comme moi qui ont aussi saturé, qui m'ont dit « t'iras pas toute seule, t'inquiète pas ». Si ça te retombe dessus, on sera là pour prendre ta défense, on sera là pour te soutenir. Si t'as des commentaires négatifs, si t'as des personnes racistes qui viennent dans tes DM, on sera là pour les contrer, on sera là pour t'écouter, on sera là pour t'épauler, on sera là pour te soutenir et pour te sauver. Donc oui, il y a plein de trucs que je me suis empêchée de faire parce que justement, je me sentais seule à des moments et que je me disais « si tu parles, tu vas te soulager, tu vas pouvoir diffuser une parole, mais surtout, tu vas prendre un risque et tu n'auras personne pour te soutenir et il y a de fortes chances qu'en fait, ce soit pire pour toi, personnellement. Donc, je n'ai pas d'exemple là, mais cet exemple il est plutôt parlant parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai des notes, que j'ai envie d'en parler, que j'enregistre les trucs, que je screen, etc. Ça a juste été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et si ça arrivait maintenant, c'est parce que j'avais du soutien, en fait.
Esther le disait tout à l'heure, quand on débarque sur ton compte Instagram, tu annonces la couleur.
Ouais.
Ceux qui agissent ont toujours tort, surtout celles qui parlent très fort. Comment tu gères la critique et l'opposition ? Et est-ce que ta manière de gérer la critique a évolué depuis que tu prends de plus en plus la parole ?
Alors, comment je gère la critique et l'opposition ? La critique, je la gère très bien, dans le sens où mes combats, je les mène depuis longtemps, j'en ai conscience depuis longtemps, et je sais qu'ils sont légitimes. Donc vraiment, les critiques, je m'en fous. Les critiques constructives, s'il y en a, je les écoute, entre guillemets. Quand j'y écoute, c'est pas dans le sens où je dis qu'ils ont raison ou qu'ils ont pas raison, hein. C'est dans le sens où je suis capable de les prendre en compte. Voilà, de les prendre en compte et de les lire. L'opposition, en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, ce qu'on a fait là, par exemple, on a eu la majorité des gens qui étaient de notre côté. Mais parce que le truc a été ficelé de manière à ce qu'on anticipe chacune des réactions. Je savais déjà ce qu'on allait me dire, parce que c'est des choses que j'entends depuis toujours. Et donc, je les avais déjà pré-contrées dans mes stories. On les avait déjà pré-contrées dans nos stories. Donc, en fait, c'était quasiment impossible de nous contredire. On a tellement entendu d'opposition. Justement, ben voilà, en fait, la réponse, c'est... à force d'entendre l'opposition, les critiques, les réflexions, les fausses remises en question, etc., bah, en fait, on a construit des arguments bah, impossibles à contredire. Finalement, je me sers de l'opposition pour davantage construire mon discours, en fait. Voilà. Là, je réalise en même temps que je vous le dis. Hein. J'en avais pas conscience, là, tu vois, à force de parler. Ça. Ben oui. Non mais c'est vrai, c'est important d'en parler parce que des fois je fais des trucs avec des mécanismes et je me dis pas ouais je vais penser ci, je vais appréhender comme ça, je le fais et puis après voilà. Mais pour le coup les critiques par exemple, je suis le genre de personne, si une critique me saoule, je vais le dire en story, hein. Je vais pas l'emmagasiner, dire oui on m'a dit ça, non, moi la dernière fois il y a une personne qui m'a fait une réflexion super condescendante en disant oui l'orthographe, nanana, je m'en fous. Je réponds, et surtout, je réponds aux gens comme ils me parlent. Ça, c'est un truc, je mets un point d'honneur à répondre aux gens de la même façon qu'ils me parlent. Donc, c'est comme ça que je gère les critiques. Je réponds, je suis cash, j'emmagasine pour me contrer. Bim.
Là, on a beaucoup évoqué les idées que tu défends sur tes plateformes, que sont notamment YouTube et Instagram.
Ouais.
Moi, je me demandais si tu avais déjà mis en place d'autres modes d'action.
Tu veux dire que la prise de parole, le fait de revendiquer des choses sur les réseaux sociaux, de m'exposer, etc.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est-à-dire par exemple casser des vitrines.
Typiquement, oui, casser des vitrines.
Non, alors en fait, c'est un truc justement que j'ai toujours redouté à faire, justement parce que je me disais, pourquoi est-ce que je vais aller au front avec des écolos qui ne vont pas au front pour moi ? C'était toujours la question. C'était quand je voyais des mouvements écolos, que ce soit dans la rue ou via les réseaux sociaux, je me disais, pourquoi moi, est-ce que je vais aller mouiller dans leur combat, alors même qu'eux n'en ont rien à faire et que quand je vais chez eux, bah, je ne suis pas en safe place. Et ça, je pense que c'est vraiment une problématique. On reproche aux personnes racisées, par exemple, oui, vous n'êtes pas dans le milieu écolo, machin et tout. Mais sauf que nous, quand on vient militer chez vous, on vient s'exposer au racisme, à l'invisibilisation, à la discrimination. Et donc, ça ralentit encore une fois des actions qui pourraient être faites si les milieux étaient inclusifs. Je suis certaine que si les milieux étaient inclusifs, j'aurais sûrement mené des actions concrètes dans l'espace public et cassé des vitrines avec eux. Je rigole, j'aurais sûrement pas cassé des vitrines. Mais tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faudrait rendre tous les milieux militants des safe places pour chacune des personnes. Et là, on parle des femmes, on parle des femmes racisées, mais on pourrait parler de la cause LGBT, on pourrait parler des personnes en situation de handicap. Quand les mouvements sont organisés, ils sont organisés donc, par des personnes privilégiées qui pensent personnes privilégiées. Quand il y a un mouvement, j'ai n'importe quoi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans les milieux, il y a sûrement plein de sphères militantes qui le font, etc. Hein. Si demain, tu organises, par exemple, un blocus, il faut que tu aies conscience que quand tu vas faire ton blocus, il y a de fortes chances que tes amis noirs, ils se fassent beaucoup plus emmerder par la police que toi. Que quand vous allez arriver à 5, 6, 7, à 10 et que vous allez vous dispatcher, les premières personnes qui seront contrôlées, ce sera pas toi. Ce sera les personnes que t'as emmenées avec toi qui seront noires ou qui seront racisées, tu vois. Et ça, c'est des choses que si tu les prends pas en compte, comment veux-tu créer un mouvement inclusif et comment veux-tu ramener le plus de personnes? Moi, demain, s'il y a un groupe de personnes blanches qui vient me dire, allez là, demain, on va aller faire un blocus ici, mais j'ai pas envie, parce qu'il y a de fortes chances qu'à la fin, ça me retombe sur moi en proms, tu vois, et ne serait-ce que parce que ça serait logique. Et donc, j'ai pas envie de prendre le risque avec vous. Parce que si ça se trouve, je vais me retrouver dans la merde, et il y a personne qui va prendre en compte les considérations et les problématiques par lesquelles je vais passer, tu vois. Je vais m'éparpiller de fou, mais du coup, la question était, est-ce que j'ai déjà donc pensé à d'autres modes d'action? Oui. J'ai toute une liste bien super sympathique de plein de trucs qu'on pourrait faire publiquement, etc. Mais la question, c'est toujours la même. J'ai peur. C'est ça, la réalité. J'ai peur. Et par exemple, Jérémy, il fait des actions concrètes, etc. Dans les milieux militants, il fait des blocus, des machins, des trucs comme ça. Il m'avait déjà dit, mais si tu veux venir et tout, viens, etc. Et moi, je lui avais dit, mais moi, j'ai peur. J'ai peur. parce que j'ai peur des personnes avec qui on va y aller, parce que c'est pas des gens à qui je peux faire vraiment confiance. Si ça se trouve, c'est des gens qui, quand je suis pas là, vont me parler de racisme anti-blanc ou seront les premiers à proférer des propos sexistes et racistes. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller mouiller avec eux? Bah, sûrement pas. Probablement que non. Et j'ai peur. Et en plus, alors moi, si je vous rajoute avec ça, je fais de l'anxiété. Alors, j'imagine déjà le pire, tu vois. Donc, en réalité, ça arrivera. Je compte faire des actions concrètes, etc. Mais du coup, dans des milieux inclusifs, penser également par moi, envisager aussi par moi et par des personnes comme moi, en safe place, en fait, tout simplement.
J'allais y venir, justement. Je demandais si tu envisageais aujourd'hui de changer de méthode d'action et je ne sais pas si c'est top secret ou si tu peux... Parce que tu parles de safe place, etc. Est-ce qu'on peut rendre ça un peu concret pour les personnes qui écoutent?
En fait, pour l'instant, c'est en phase de discussion, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais en gros, oui, avec Jérémy et Canel, là, aujourd'hui, on dénonce, on va faire un reportage. Et après ça, on compte bien mettre d'autres actions en place, d'autres mouvements en place. Parce que maintenant qu'on a mis en lumière cette chose-là, on a plein de personnes racisées qui disent « Mais en fait, moi, je ressens la même chose depuis le début. Il y a plein de moments où j'ai pas voulu venir, où j'ai pas voulu m'intéresser. Parce qu'en fait, je pensais que c'était juste pas ma place, dans le sens où ces personnes s'intéressent pas à ce que je fais, à ce que je vis, etc. Donc, pourquoi j'irais chez eux, en fait ?» Donc, on a une grosse demande de personnes racisées qui disent « Mais moi, je m'intéresse à l'écologie depuis toujours, mais j'ai jamais osé m'y intégrer parce que justement. » Et donc, on réfléchit effectivement à des solutions et à des mouvements qui pourraient inclure les personnes racisées ou plus encore, les personnes simplement invisibilisées dans ces mouvements, ouais. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est encore vraiment en phase de discussion. Il n'y a vraiment rien de concret pour le moment.
Est-ce que parfois, tu doutes aussi de la manière dont tu peux défendre tes opinions?
Alors, attends, c'est une bonne question. Non. Mais par contre, ça m'arrive, ça m'est arrivé de pousser des coups de gueule et de les supprimer après coup. Parce que je recevais des commentaires de personnes qui, justement, minimisaient ce que j'expliquais. Et en fait, c'est pas genre « oui, j'ai peur que les gens soient pas d'accord avec moi sur ce moment-là », c'est « j'ai pas la patience, j'ai pas le courage et j'ai pas du tout l'énergie de recevoir ces commentaires aujourd'hui ». C'est plus dans ce sens-là. Il y a plein de moments où j'ai poussé des coups de gueule, etc. Et en fait, je voyais que les gens comprenaient pas le fond, ils comprenaient la forme. « Oui, mais t'as dit ça et tout », mais c'est pas ça que j'explique. Et quand je voyais que le message passait pas comme je voulais qu'il passe, et surtout que la majorité des commentaires, ou en tout cas ne serait-ce que les deux commentaires, deux personnes qui comprennent pas, c'était suffisant pour moi pour me dire « aujourd'hui, j'ai pas l'énergie ». Et c'était plus en question d'énergie, plus qu'en doute. C'était vraiment, il y a des jours où je me disais, non, aujourd'hui, c'est pas le jour pour parler, parce qu'aujourd'hui, t'as absolument pas l'énergie nécessaire pour recevoir des choses qui remettent en doute, en fait, ton vécu, tu vois. Donc, douter, non. Revenir en arrière parce que je suis fatiguée, oui.
Avec toute l'énergie que tu déploies, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens découragée?
Oh là là.
Et surtout, comment tu les dépasses?
Alors, il y a des moments où je me sens découragée, oui, et fatiguée, oui, carrément. Comment je les dépasse? Mais en fait, je crois que c'est pas moi qui décide. C'est vraiment juste que j'ai des phases où voilà, mon corps il dit voilà, c'est bon, fuck et tout, machin. Sauf que fuck et tout, machin, on y revient. C'est-à-dire que si moi je dis fuck aux luttes militantes, en fait, je dis fuck à ma vie. Tu vois, si demain j'arrête de lutter contre le racisme, je le vis encore. Donc. J'ai pas trop le choix, là, tu sais. Je me dis, bon, oui, mais meuf, si t'arrêtes de militer, si t'arrêtes d'ouvrir ta bouche, si t'arrêtes d'en parler, si t'arrêtes d'éduquer les gens, si t'arrêtes de t'exprimer, en fait, c'est toujours la merde, en fait, tu vois. Et c'est pareil pour le féminisme. Si demain, je me tais, si demain, je dénonce plus, si demain, je m'énerve plus, si demain, je relaye plus, si demain, en fait, c'est juste ma vie quand je vais être de la merde, quoi. Donc, c'est con, mais encore une fois, j'ai pas le choix. C'est-à-dire, des fois, je me dis, putain, fuck! Mais si je dis fuck, je dis fuck! À mes droits, je dis fuck à mon futur, je dis fuck à mon présent, je dis fuck à ma vie, quoi. Donc je peux pas, en fait. Donc à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, bon, de toute façon, attends 2 jours, attends 2 heures, et puis tu reviendras avec une nouvelle story, tu reviendras avec une nouvelle vidéo, tu reviendras avec des nouvelles idées, tu reviendras avec, tu vois. Donc en fait, j'attends. J'attends juste que la vague revienne, j'attends juste qu'il y ait un nouveau truc qui m'énerve et qui me repique. Et puis voilà, et puis après, ouais, sinon je me plains... à Canel et à Jérémy ou à d'autres amis, et je leur dis « Putain, j'en ai marre, c'est de la merde et tout, regarde comment c'est trop de la merde et tout !» Et puis pareil, j'attends juste que mon énergie revienne toute seule, tout simplement.
T'as un rapport intéressant à la colère. On dirait que c'est ta meilleure ennemie. C'est-à-dire que c'est à la fois la force qui te donne de l'énergie et qui te repompe quand tu as besoin. Et en même temps, c'est le symptôme des problèmes auxquels tu es confronté au quotidien.
Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai pas d'autres mots là. C'est ça. En fait, j'en ai marre d'être en colère. Mais en même temps, si j'étais pas en colère, en quel état je serais en fait ? C'est ça que je me dis. Si j'ai pas la colère, je fais quoi ? Je pleure, je m'écrase, je dors, je sais pas. Hein. Donc ouais, la colère, c'est à la fois ce que je voudrais plus ressentir et à la fois ce que j'ai besoin de ressentir pour agir. Ouais. C'est déprimant, hein.
Alors, je trouve pas du tout ça déprimant, en réalité. Je trouve ça hyper inspirant parce que tu débordes d'énergie, tu dégages quelque chose de hyper positif, de très fort. Et de savoir que en coulisses, c'est pas facile tous les jours, mais qu'évidemment, toi aussi, t'as des moments de découragement. Je trouve pas ça déprimant en réalité. Ouais. Je trouve que ça te rend humaine. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire à travers ce podcast, c'est de montrer que les activistes sont des personnes très très différentes, engagées sur énormément de causes très différentes, avec des histoires très différentes, et qu'ils ont juste en commun de ne pas venir de Krypton avec des super pouvoirs et d'avoir l'envie que le monde change dans la bonne direction. Donc merci beaucoup pour ça, vraiment, moi je trouve ça hyper inspirant.
Ok, tant mieux. Si ça peut servir, c'est avec plaisir.
J'ai aucun doute que ça servira. On approche de la fin de l'interview, donc on va finir avec deux, trois petites questions rapides. Alors comme tu ne pouvais pas choisir, je crois qu'on les a choisies nous-mêmes. Donc moi je commence. Yes. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé ? Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps ?
Que quelqu'un me dise « t'as raison ». Direct, vraiment. Que quelqu'un. Alors, on me l'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit oui et tout, tes causes sont légitimes, tu fais bien de t'exprimer, etc. Mais je pense que j'aurais voulu plus l'entendre parce qu'il y a eu beaucoup trop de moments où je me disais, mais est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que je suis la seule à le voir ? Est-ce que je suis la seule à voir que ça va pas ? Est-ce que je suis la seule à voir que ça va pas ? Je pense que avoir plus de gens qui me disent, qui viennent me voir, qui me disent, non mais en fait, oui, mais t'as raison ! Pas forcément continue, etc. Mais t'as raison, tu n'exagères pas, tes combats sont vraiment légitimes. Je pense que vraiment avoir quelqu'un qui me répète régulièrement « tu as raison », c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir et que j'aurais voulu savoir dès le début. Plutôt que de penser que j'ai raison, de savoir que j'ai raison. C'est plutôt ça, ouais.
On a beaucoup parlé tout à l'heure de manque de représentation. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un ou une super-héroïne de fiction qui t'inspire particulièrement.
Alors,
tu peux en citer plusieurs.
Alors attends, mais en fait justement, j'ai réfléchi à cette question et alors vous avez trouvé ça con, mais j'ai pas trouvé parce que quand je réfléchis là, je réfléchis de fiction, il y a rien qui me vient vraiment. Mais je me suis dit, je peux pas faire ce podcast sans parler de ça parce que il y a une personne qui est pas une personne de fiction, mais dont je parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. C'est une rappeuse que j'adore et dont j'arrête pas de parler. Et c'est Shai. C'est pas une personne de fiction, mais je la connais pas personnellement et je ne suis même pas sûre qu'elle existe vraiment. Donc j'ai envie de la placer parce que c'est super. C'est ce que cette personne représente. Je la connais pas personnellement, donc ça se trouve, je ne sais pas qui elle est dans son quotidien, mais ce qu'elle représente, c'est juste. Ça va paraître ridicule pour plein de personnes, justement, et c'est pour ça que c'est un bon exemple. Mais c'est juste pas vital. Mais cette personne a été nécessaire dans plein de cheminements de ma vie. Et le moment où Shai n'existait pas dans mon cerveau, et le moment où cette meuf existait. Parce qu'on parlait de représentation, mais des femmes racisées, afrodescendantes, qui s'expriment publiquement, qui revendiquent leur féminisme, qui s'incluent dans des milieux majoritairement masculins, gérés en sous-jacent par des personnes blanches, et qui s'impose autant, alors même qu'elle prend des critiques, mais que vous n'imaginez même pas, ça a été hyper bénéfique. Et en fait, quand moi je m'exprime, quand moi je m'expose, le truc que je me dis toujours, c'est il y a plein de meufs qui sont comme toi, qui réunissent tout justement tes non-privilèges, et qui voient personne d'aussi proche d'eux. Dans leurs revendications et même juste de par ce qu'elles représentent, tu vois. Et en gros, moi, j'aimerais bien être la Shai du militantisme, tu vois. La meuf où tu te dis, putain, elle s'est pris tant de vagues et elle est toujours là. La meuf, elle ose dire des trucs que je vois personne dire. Elle vient du même milieu, elle réunit tous les mêmes non-privilèges et tout. Et elle le fait quand même, tu vois. Elle le fait quand même et elle est toujours là, alors que toi, tu vois sur Twitter. ce que les gens disent. Tu vois, toi, tu vois sur les réseaux, tu vois les commentaires, tu vois ce que t'entends, ce que les gens disent. La meuf, elle est toujours là, tu vois. Et donc, c'est pas une personne de fiction, c'est une vraie personne. Mais elle incarne en fait ce que j'ai envie, entre guillemets, d'incarner, mais d'un point de vue militantisme, etc. C'est en gros, tu te dis, putain, avec tous les bâtons dans les roues qu'elle a, la meuf, elle est encore là, elle lâche pas le steak, elle est toujours ici. Mais j'ai envie d'être cette personne, tu vois, de se dire... Putain, elle était mal partie hein, pour qu'on l'écoute. Hein. Mais maintenant, on l'écoute, tu vois.
Est-ce que tu peux dire de quel milieu elle vient? Parce que je crois que tu n'as pas précisé.
Ah ouais. Bah, en gros, elle vient d'un milieu modeste. Bon, elle est belge, donc ça se passe, c'est pas exactement le même... On va dire,
je veux dire dans quelle sphère elle gravite en ce moment, tu vois.
Ah pardon, excuse-moi. C'est pas le militantisme, excuse-moi, je ne vais pas faire sa biographie.
T'inquiète, il n'y a pas de problème.
J'allais faire tout sa bio, là. Oui, je t'écoute.
En gros, parce que t'as parlé d'elle comme un modèle, mais ouais. T'as pas expliqué ce qu'elle fait dans la vie. Je pense que tout le monde, je sais pas si tout le monde la connaît en fait.
Ouais, bah en fait,
moi je la connais grâce à toi.
Ah super.
Donc je me dis.
Ah ouais, parce que je suis en boucle. Je suis super chiante. non, mais en gros, c'est une rappeuse qui est belge et donc qui est afrodescendante et qui est dans un milieu de rap où les femmes noires sont littéralement invisibilisées. Où on leur donne moins la parole, où elles ont moins de place, ou tout simplement c'est juste plus difficile de gravir des échelons dans n'importe quel milieu quand on part de la même marche en gros. Et elle rappe et elle fait de la musique et elle fait pas beaucoup d'interviews, mais les interviews qu'elle fait, bah en fait elle revendique son féminisme dans un monde de rap, tu vois, genre c'est vraiment genre la première fois que j'ai entendu dire, mais en fait bien sûr que je suis féministe. Je vais pas dire le contraire, ça va pas ou quoi et tout. Et je me suis dit, mais c'est tellement rare parce qu'en fait, souvent, quand on a des artistes, elles veulent pas spécialement se politiser parce que c'est déjà assez compliqué et elles sont déjà politisées juste parce qu'elles sont là. Et pour moi, je me suis dit vraiment le courage de se dire, bon voilà, je suis dans une interview rap et j'arrive et je dis, ouais, je suis féministe. Il manquerait plus que je dise le contraire, tu vois. C'est plein de trucs comme ça en fait. Et même ses textes, ses sons, la façon dont elle s'expose sur les réseaux sociaux, avec les vagues qu'elle s'est pris, elle a été accusée plein de fois, enfin, elle s'est pris plein de vagues sexistes, misogynes, racistes, etc. Enfin, je les vois sur les réseaux sociaux, etc. Et ouais, en fait, c'est vraiment juste de voir quelqu'un qui, même si elle n'est pas dans le même milieu, elle est toujours là. Moi, c'est vraiment juste ça en fait. Elle est toujours là et elle lâche pas le sec. Et au plus les années elles passent, et au plus. Elle est présente et au moins elle lâche l'affaire, tu vois. Alors que tu sais, t'auras tendance à te dire putain, plus le temps passe et plus je peux plus, quoi. Tu vois.
Eh ben, merci beaucoup, Annabelle, pour cette interview.
Oh, c'est génial. Attendez, excusez-moi, je fais une parenthèse. On finit cette interview en parlant de Shai.
Oui. C'est tout à fait sûr.
Je suis refaite. Ma journée est refaite.
Merci beaucoup, c'était trop cool.
C'était génial.
Merci à vous.
Pour te suivre, on renvoie tout le monde vers ta chaîne YouTube et ton compte Instagram, notamment. Est-ce qu'on les envoie ailleurs?
Ah, bah non, Instagram, YouTube, okay. Très bien, c'est parfait.
Super, c'est les liens seront dans la description. Et voilà, merci encore pour ce moment.
Merci à vous, c'était génial. J'adore parler, donc pour moi, c'était un bonheur. Vraiment.
Merci.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.